La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans la danse des mots qui a le plaisir et l'honneur. J'aime bien dire le plaisir et l'honneur parce que le plaisir et l'honneur ce n'est pas exactement la même chose. Eh bien nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir une grande voix de la langue française et de quelques autres langues. C'est la comédienne ou l'actrice. Je ne sais pas si elle dit comédienne ou actrice, on va lui demander. C'est Hawa Sensar. Hawa Sensar, bonjour.
Bonjour Yvan Amar.
Vous êtes sénégalaise, vous vivez en Belgique depuis longtemps, vous êtes comédienne ou actrice, alors quoi, comédienne ou actrice ?
Les deux, je dis souvent comédienne et actrice parce que de temps en temps, j'ai fait beaucoup d'infidélité au théâtre pour aller vers le cinéma.
Et pour vous, quand on dit actrice ou acteur, c'est plutôt le cinéma et comédien, comédienne, c'est plutôt le théâtre ?
Oui, oui, je pense que comédienne, c'est plutôt ce rapport avec le public, c'est important. Or, acteur, c'est un autre rapport, c'est le cinéma.
Et c'est pas les mêmes personnes qui vous regardent au cinéma et au théâtre. Quand on joue au théâtre, on joue pour des gens qui sont dans la salle qu'on ne voit pas, mais ils sont là. Quand on joue au cinéma, on joue pour la caméra et pour le metteur en scène.
Tout à fait. Le théâtre est un art éphémère. Les représentations se succèdent, mais ne se ressemblent jamais. C'est l'art d'un soir. Et le cinéma, on regarde le film et on revient dessus. On s'arrête même et on revient la prochaine fois.
Hawa Sensar, on vous connaît pour des rôles très nombreux, pour une grande implication dans la vie artistique au Sénégal et aussi en Belgique où vous êtes fixé depuis une quinzaine d'années. Mais c'est sûr que la première chose qui vient à l'esprit, je m'excuse de commencer par là, mais c'est par là qu'il faut commencer à mon avis, c'est votre présence dans Kirikou. C'est vous la sorcière de Kirikou, c'est vous la voix de la sorcière de Kirikou. Alors, débarrassons-nous de ça, ensuite on viendra à autre chose. Mais dites-moi si vous vous sentez très identifié, si vous avez l'impression que le public vous identifie à cette sorcière, ça vous a pas gêné dans votre carrière d'être trop la sorcière ?
En un moment, je me disais, j'ai souvent dit non, je n'ai pas fait que ça. Parce que quand même j'ai quelques années de carrière, mais maintenant même je me surprends à me présenter comme Caraba la sorcière. Donc vraiment c'est un très très beau cadeau que Michel Ousloo m'a offert, un très beau cadeau qui m'a permis plein de passerelles dans le monde comme ça. Aujourd'hui nous sommes à Brazzaville, j'ai été au Sénégal, j'ai été dans d'autres rencontres. C'est vraiment un très beau cadeau, j'assume, je suis Caraba la sorcière.
Vous êtes Caraba, vous êtes la voix de Caraba, parce que Kirikou c'est un dessin animé. Est-ce que vous vous sentez proche du personnage que vous voyez sur l'écran quand vous voyez la sorcière Caraba ?
Ben, ça nous ramène à même l'un des thèmes de ce débat. Moi je prête mon enveloppe corporelle, mes émotions, ma voix pour faire exister des personnages. Et ce qui est intéressant lors des rencontres avec les enfants, ils n'arrivaient pas à comprendre mais qui est Hawa Sensar et qui est Caraba. Donc c'est un peu dans cette double identité qu'on se projette.
Alors ce film de Kirikou, il a eu tellement de succès qu'il y a eu un bis et puis un ter. Il y a trois films de Kirikou. Est-ce que la sorcière, et même est-ce que la voix de la sorcière, la façon de proférer, de parler, est-ce qu'elle a changé ? Est-ce qu'il y a une histoire de la sorcière ou bien est-ce que la sorcière, elle est immuable ?
La sorcière, dans les trois histoires, est restée la même parce que la première histoire, c'est Kirikou et la sorcière. Donc, Michel Ousloo avait déjà raconté toute son histoire et en un moment, il est revenu pour raconter un peu une sorte de rappel, de souvenir comme ça. Mais la sorcière reste toujours méchante. Mais on n'est jamais gratuitement méchant dans la vie.
Alors, en direct dans la danse des mots, voici Caraba.
Comment oses-tu te plaindre ? Vous avez un marigot près de chez vous. Vos femmes ont encore quelques bijoux cachés dans leur case. Et tu es toujours vivant.
Merci Caraba, j'en suis déjà blême d'émotion et de terreur. Ce qui est difficile quand on fait une sorcière, c'est justement de faire passer une émotion qui ne soit pas convenu, qui ne soit pas cliché, disons. Est-ce que vous avez travaillé avant de trouver cette voix, cette élocution, ce côté à la fois guttural, cette scansion extrêmement rythmée?
J'ai beaucoup travaillé pour cette voix. C'est pourquoi je disais toujours aux journalistes qui me disaient « Ah, vous avez doublé la voix de Karaba ». Je rétorquais « Non, j'ai créé la voix de Karaba ». Parce que à l'époque, quand Michel Ousselot m'a rencontré en 1998, en 1998...
Oh, vous pouvez dire 98, on voit bien que vous vivez en Belgique, Awa.
En 1998, quand Michel Ousselot m'a rencontré, je ne connaissais pas toute l'histoire de cette sorcière. Aujourd'hui, il y a des psychologues, il y a des philosophes, il y a plein de personnes qui ont travaillé autour de cette personne de Karaba pour déceler qui elle est vraiment. Moi, je n'avais pas tout ça à l'époque. Donc, il me fallait créer un parcours à Karaba. Qui est Karaba? Quelle est son histoire? Quel est son parcours? Quelle est sa vie? Quelle est sa famille? Je lui ai créé une famille fictive. Mais au milieu de tout ça, je savais qu'elle avait des blessures de la vie, qu'elle avait des écorchures de la vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aborder le personnage en l'alimentant, bien évidemment, de mes propres émotions et d'aller chercher dans ma vie ce qui m'a blessée à des moments de grande douleur que j'ai eu dans ma vie. Donc j'ai alimenté mon personnage avec tout ça, avec aussi des choses que j'avais autour de moi, des personnes qui ont souffert autour de moi. Donc toute cette souffrance, je l'ai accumulée pour l'injecter à Karaba.
Alors c'est tout à fait particulier de prêter sa voix à un personnage au cinéma quand ce n'est pas vous qui l'incarnez. Et la personne qu'on voit, c'est pas vous. La personne qu'on entend, c'est vous, ou en tout cas la voix qu'on entend, c'est la vôtre. Ça ressemble peut-être un petit peu à la radio ou à certaines lectures. Je sais que très souvent vous avez travaillé sur des lectures. Est-ce que le positionnement de la voix est différent quand justement on donne la voix à un personnage animé?
Je dirais que la démarche elle est différente, parce que quand je suis sur les planches, quand je suis sur la scène, c'est vrai que c'est Awa Sensar qui est là et qui emprunte les mots des dramaturges et des auteurs pour insuffler ces personnages. Mais dans un dessin animé, tu n'as pas de matière, tu n'as que le support du texte. Et c'est là où ça devient intéressant, ça devient très intéressant parce que tu donnes beaucoup de toi-même. C'est en toi que tu vas aller chercher. Il n'y a pas un metteur en scène qui te donne la psychologie de ton personnage ou te donne une orientation sur ton personnage. C'est à toi de construire ce personnage-là à travers les mots.
Et en même temps, est-ce que la silhouette, est-ce que l'apparence de cette sorcière Karaba, elle a joué sur la voix que vous lui donniez? Est-ce que vous avez étudié à quoi elle ressemblait, quelles étaient ses mimiques, quel est son profil pour trouver la voix qui corresponde?
Mais vous savez, Michel Ousselot, c'est quelqu'un de très méticuleux.
Michel Ousselot, qui est donc le metteur en scène de Kirikou.
Voilà. Michel Ousselot, le papa de Kirikou, comme on l'appelle, le réalisateur de Kirikou, c'est quelqu'un de très, très, très méticuleux. Il sait où il va. Et moi, au premier instant où j'ai travaillé avec lui, les orientations qu'il me, les intonations qu'il me donnait, j'étais en confiance et je savais que ça allait donner quelque chose. Et par rapport au personnage, comme vous le dites, on n'a pas les premières répétitions, on n'a pas encore les images, mais au fur et à mesure que le travail continue, Michel Ousselot nous oriente vers des directions où on a presque l'image de la sorcière devant nous.
Alors je vous propose d'écouter maintenant un extrait du film avec la voix que vous lui avez donnée dans ce film.
Il faut que je voie ce que Karaba réserve à la criotte.
Oui, femme imprudente, on ne peut désobéir à Karaba, la sorcière. Je te pardonnerai généreusement si ton histoire est bonne. Raconte.
Mais cela ne se passe pas ainsi. Il faut un auditoire pour que le conte arrive bien.
Il y a moi! Cela ne te suffit pas?
Quelque importante que vous soyez, vous êtes seule.
Comment seule? Avec tous les fétiches qui m'entourent?
Ah, peut-être.
Il y a moi!
Quelle est cette voix?
Elle ressemble à celle de Kirikou.
Kirikou, un bien charmant enfant.
Kirikou, où est-il?
Maîtresse, quand Kirikou se cache, je ne le vois pas.
Incapable! Quant aux autres, ils sont encore moins utiles de nuit que de jour. Enfin, pour l'instant, ce petit crapaud ne nous gêne guère.
Bien au contraire, il sait écouter.
Na bok ak mag ni bol xel pousala mak man nako for xale man ko for kiri ku setina mamam laj ko ma mat na bacim rew kiri ku dafa ñew hetal li wa dekk bi kiri ku jambardi mom dafa bëgg kiri Nach de Flimburger, Kiriku Jambardi, Mom de Flimburger, Kiriku Dutai, Nach de Flimburger. Gune Bulochum Sete, A Bokat Mangi Bol. Help Usolom Makman Nokofor, Waye Haletam. Kiriku Sete, Mamma Mlakuma. Mat na bacim rew kiri ku dafa ñew hetal li wa dekk bi
La danse des mots avec vous, Awa Sensar, maintenant qu'on s'est débarrassé de Kirikou, qui est, il faut dire, un aspect important de votre carrière, j'aimerais bien vous demander comment vous en êtes arrivé là. Alors, on m'a dit qu'au départ, vous auriez bien aimé devenir avocate, et puis qu'il y a eu un tournant qui s'est fait, que tout d'un coup, vous avez voulu devenir comédienne. Racontez-nous un petit peu la naissance de cette vocation et comment vous en êtes venue là.
Tout à fait vrai. Je voulais être avocate et je me suis inscrite en capacité en droit à l'université de Dakar. Et à la deuxième année, une de mes amies m'a dit « Ah ouais, il y a un concours à l'Institut National des Arts pour devenir artiste. » Je dis « Moi, je n'avais pas d'artiste dans ma famille. Hein. » Je dis « Ah,
mais... » Vous n'aviez pas d'avocat non plus.
Non, non plus. Alors, je me dis « Ah, c'est très intéressant. » J'en ai parlé à l'époque à mon père, que je remercie vraiment. Et il m'a dit « Mais si c'est ça qui fera ton bonheur, vas-y. »
Alors, vous avez fait beaucoup de cinéma et beaucoup de théâtre. Vous avez été en particulier l'une des comédiennes de d'Ousmane Sembène. Et notamment dans Les Bouts de Bois de Dieu, vous avez participé à deux mises en scène différentes. Est-ce que ça fait deux personnages différentes? Est-ce que ça fait deux voix différentes?
Oui, c'était un grand plaisir de faire Les Bouts de Bois de Dieu. C'est vrai que c'était deux approches esthétiques très différentes. Le premier Bout de Bois de Dieu, c'était au Théâtre National Daniel Sorano avec notre metteur en scène de l'époque. Et après, j'ai travaillé avec un Congolais d'ailleurs. Il est d'origine congolaise de Brazza, Limvani, qui a fait une autre approche de Bout de Bois de Dieu. Et c'était vraiment des personnages, c'était une même œuvre, mais avec des personnages complètement différents, un univers complètement différent, et c'était magnifique. Les deux étaient magnifiques.
Et donc ça faisait deux façons d'aborder le texte et deux façons de l'exprimer qui étaient très différentes. Votre voix, votre débit n'étaient pas les mêmes?
Les voix n'étaient pas les mêmes, le débit n'était pas le même, l'univers n'était pas le même. Parce que avec le Théâtre National, on était dans une scène une scène à l'italienne avec des personnages bien définis. C'était un théâtre, c'est beaucoup plus classique. Or, avec Limvani, c'était une sorte de théâtre total où danse, texte se côtoyaient et se mélangeaient. Et c'était quelque chose que j'avais bien apprécié.
Alors, vous faites du théâtre comme comédienne, mais vous avez fait aussi de nombreuses lectures au théâtre. Est-ce que ça change tout? Est-ce que la façon d'aborder le texte est tout à fait différente? Est-ce que quand on fait une lecture, on se rapproche un peu du conte, en tout cas d'une façon de raconter une histoire à un auditoire?
Tout à fait juste. Lire, c'est raconter une histoire. Raconter une histoire, mais en mettant de la couleur aux mots. Parce qu'on est devant un texte nu et il faut l'habiller, il faut que le lecteur, le spectateur ou l'auditeur qui est là en face de toi puisse voir toutes les images. J'en ai fait des lectures à Tunis autour de l'œuvre de Kuruma en attendant le vol des bêtes sauvages, une œuvre magnifique. magnifique et je continue de faire la lecture parce que la lecture c'est très très important et notamment pour parler des cafés littéraires que nous faisons à Bruxelles, nous faisons beaucoup de lectures aussi.
Alors, puisque vous en parlez tout de suite, parlons-en tout de suite. Vous organisez une fois par mois à Bruxelles des cafés littéraires et des cafés littéraires surtout féminins.
Oui, nous organisons, parce que l'histoire a commencé par une association. Nous avons créé une association de femmes intitulée Linger. Linger, ce sont des femmes d'origine africaine, des femmes qui étaient des reines ou des princesses, mais qui participaient dans l'élaboration de la société, de la cité. Et nous, nous avons dit, voilà, nous sommes des Linger modernes et nous avons envie de participer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est comme ça qu'est né ce café littéraire. Où on rencontre, on reçoit des femmes qui écrivent et c'est un café littéraire intitulé Regard de femmes. Tous les mois, on reçoit à Bruxelles une femme écrivaine.
Une femme francophone ou pas nécessairement? La plupart du temps, ce sont des francophones, j'imagine.
Oui, la plupart du temps, c'est des femmes francophones que l'on reçoit. On a fait un hommage à Wangari Maathai, qui est une femme kényane, mais on a surtout parlé de sa participation et de son mouvement La Ceinture Verte, parce que c'est une femme qui a planté 30 millions d'arbres et qui a écrit énormément de livres qui ont été évidemment traduits en français, raison pour laquelle nous pouvons y avoir accès et le lire. Donc voilà, c'est ça le...
Donc les femmes sont invitées, les femmes qui présentent leur travail, leur roman, leur poésie, peut-être autre chose, leurs films, leurs pièces de théâtre. Mais les gens qui viennent assister à ça, ce sont des femmes ou bien des hommes et des femmes?
Des hommes et des femmes, des noirs et des blancs. Voilà, le public, il est cosmopolite, il est ouvert et tout le monde est la bienvenue. Et nous avons aussi un groupe de modérateurs pour animer toutes ces réflexions-là. Et dans ce groupe, on trouve des femmes et des hommes. Mais les invités sont des femmes qui écrivent.
Et vous avez l'impression qu'il y a une particularité, une spécificité dans l'écriture féminine? Je ne vais pas vous demander si... à l'aveugle, si je puis dire, vous reconnaîtriez une auteure d'un auteur. Mais est-ce que vous avez l'impression que quand on écrit et qu'on est une femme, on n'écrit pas exactement de la même façon parce que la vision du monde, la vision même de soi n'est pas la même?
Je suis comme Yen, je suis pas auteur, mais je vois à travers les écrits des femmes qui abordent toutes les thématiques. Hein. La femme n'est pas aujourd'hui tout simplement dans la thématique qui concerne les femmes. Et les thématiques qu'elles développent sont très très larges. Mais je sens une certaine sensibilité sur certaines questions. Donc je ne dirais pas que c'est différent de ce qu'écrivent les hommes, mais la sensibilité, la manière d'aborder les choses, le regard qu'elles posent sur la société est différente.
Danse des mots, Yvan Amar.
Tamala, 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 tamala. Dindingobe tamala, kebabe tamala, mohobe tamala. Olu be tamala munela fo fenyini de ma aluma mokolu ye momunu be padotala fo be tala fenyini de la dungala ale ndolu sa wolu no fendo
La danse des mots, toujours avec vous, Awa Sensar, avec vous l'actrice, avec vous la comédienne, avec vous l'initiatrice de projets avec ces cafés littéraires qu'on vient d'aborder. Mais vous avez fait bien d'autres choses, notamment vous êtes metteur en scène et puis vous avez inventé un spectacle très spécial, Géoubi, je crois. Est-ce que je prononce bien ?
Oui, Géoubi.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça, Géoubi?
Vous me rappelez un spectacle qui était enfoui dans ma mémoire. Géoubi, c'était, disons, un spectacle, mais en même temps, une sorte de veillée africaine avec de la musique, avec des chansons, avec de la danse, avec des tranches de texte et de la poésie.
Vous aviez fait ça où? Ça, c'était à Dakar?
Oui, j'avais fait ça à Dakar. À l'époque, j'avais créé une troupe qui s'appelait Petao. Petao, ce sont les petits colis qu'on trouve au fond de la mer et qui servaient de monnaie locale en Afrique.
Donc, des petits coquillages qui servent de monnaie, ce qui porte bonheur en même temps.
Voilà, ça porte bonheur en même temps. Donc, j'avais créé une troupe qui s'appelait Petao. Et j'avais envie, à l'époque, de faire autre chose. J'avais pris 2 années sabbatiques pour faire au théâtre, pour faire des spectacles que j'avais envie de faire. Mais je ne suis pas, je ne me définis pas comme une metteur en scène parce que j'ai fait quelques mises en scène, dont Géoubi. À Bruxelles, j'ai fait une mise en scène sur les champs de la traversée autour des thèmes de Léopold Sédar Senghor, autour du concept du donner et du recevoir, parce que nous sommes dans un monde où je pense qu'il faut parler de ça, que le monde doit être uni, les gens doivent se parler. Donc j'avais pensé à un spectacle comme ça autour de la poésie de Senghor. Je l'ai fait.
La poésie de Senghor en quelle langue? En français?
Bien évidemment. Oui. Senghor, c'est la quintessence de la langue française aussi pour nous. Donc voilà, c'était en français, bien évidemment.
Bien évidemment, mais la première langue de Senghor, la langue africaine de Senghor, ce n'est pas le français, c'est le sérère. Est-ce que je peux vous demander, Awa Sensar, quelle est, vous, votre langue première africaine?
En principe, la langue de Senghor, c'est aussi ma langue maternelle, parce que ma mère, elle est sérère. Je suis sérère de par ma mère, parce que chez les sérères, c'est une lignée matriarcale. Donc, de 14 générations, je suis sérère. Mais je ne parle pas sérère. Et je parle le français, je parle le wolof. Senghor parlait, je ne sais pas, sérère, et le français. Donc le français aussi nous permet de dialoguer avec le monde et au niveau national, de s'exprimer peut-être dans les langues nationales.
Vous avez déjà travaillé en wolof en tant que comédienne?
Oui, j'ai déjà travaillé. Moi, j'ai toujours travaillé en français, mais aussi j'ai fait quelques expériences en wolof. En me disant qu'au théâtre, par exemple, en un moment, on avait fait une réflexion pourquoi les gens ne venaient plus au théâtre et pourquoi aussi le théâtre ne sortait pas vers l'extérieur. Parce que nous avons besoin de langues, peut-être pour parler au niveau intérieur, au niveau local, mais nous avons besoin de cette langue française qui nous permet d'aller à la rencontre des autres. Moi, je me dis, en tant que Sénégalais, si je n'avais pas la langue française, comment je parlerais à un Burkinabé? Comment je parlerai à un Camerounais? Comment je parlerai à un Congolais? Comment je parlerai à un Guinéen? Donc, je pense que cette langue française nous permet aussi, au niveau du continent, d'avoir des liens. Et au niveau local, c'est vrai que les gens s'expriment dans les langues. C'est comme en France, à l'époque où, avant que Ronsard ne vienne dire non, le latin, c'est bien, mais essayons aussi de parler dans les langues du peuple. Je pense que, voilà, les langues locales, les langues nationales, et cette langue nationale que nous avons au Sénégal permet aussi de discuter au niveau national.
Une dernière question à Awa Sensar. Vous parliez de faire sortir le théâtre de ses lieux les plus traditionnels. Vous avez fait du théâtre de quartier, du théâtre de rue, du théâtre dans d'autres endroits que des théâtres, dans des écoles, dans des entreprises.
Moi, j'ai fait du tout. Je commencerai par les festivals, parce que les festivals, ce sont des rencontres aussi intéressantes où on peut parler à l'autre, on échange, on crée des points. J'ai fait le festival de Limoges, j'ai fait le festival d'Avignon, j'ai fait le festival de Pézenas, où on nous montait que Molière à l'époque, et nous sommes partis avec le malade imaginaire de Dakar à Pézenas.
Pézenas, qui était l'une des villes de Molière, puisque c'est là qu'il a été, avec l'illustre théâtre, c'est là qu'il a été installé plusieurs années.
Tout à fait, tout à fait.
Pézenas, c'est donc dans le sud-ouest de la France.
Dans le sud-ouest de la France. Nous avons fait, j'ai fait aussi le Massa, le Rétique, les journées théâtrales de Carthage, mais en même temps, j'ai, au niveau du Sénégal, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, j'ai travaillé dans des écoles, parce que le Théâtre National nous permettait tout ça aussi. Le Théâtre National, Daniel Sorano, n'était pas un lieu fermé sur lui-même. On partait dans les écoles. Quand j'ai rencontré la femme de l'ambassadeur hier, je lui ai dit, mais je connais votre papa à travers ses œuvres. Parce que nous avons, à l'époque, avec Sorano, travaillé sur Sundiata à travers les écoles de Dakar. Parce que c'est ça aussi la notion de l'art. J'aime pas l'art très élitiste où on reste fermé dans les mêmes murs.
Eh bien, merci beaucoup Awa Sensar, merci d'avoir participé à cette danse des mots et de nous avoir ouvert une lucarne sur votre carrière. La danse des mots donc, une émission proposée par le réseau Canopé et par RFI, Lucie Bouteloup, Véronique Durand, Yvan Hamar.
Vous souhaitez réécouter l'émission La danse des mots ? Rendez-vous sur le site internet rfi.fr.